Bienvenue à Un festin d'idées, un podcast qui explore la philosophie et les pratiques d'une éducation Charlotte Mason. Je m'appelle Annie.
Et moi, Fanny.
Merci de vous joindre à nous pour ce 19e épisode. Après avoir étudié la copie et la dictée, nous compléterons aujourd'hui notre portion acquisition de la langue avec l'étude de la composition et de la grammaire. Je crois que nous n'avons pas à vous convaincre de l'importance d'écrire et de bien écrire. Tout le monde, peu importe ses occupations principales, aura besoin de composer, d'écrire sans faute, dans sa vie de tous les jours. Mais c'est quoi exactement bien écrire? Pour Mason, ça passait premièrement par la capacité d'exprimer clairement sa pensée et ensuite d'être capable de la communiquer de façon appropriée tant à l'oral qu'à l'écrit. Elle nous dit « C'est difficile à croire, mais la composition est aussi naturelle pour les enfants que de sauter et courir si on leur a permis de lire de nombreux livres. » Ça vient de son premier volume.
La communication orale est aussi importante que la communication écrite, voire plus, et devrait être perçue comme telle. C'est pour cette raison que Mason mettait l'emphase sur la narration orale au début des études et que cette pratique reste importante tout au long des études. Mais comment enseignait-elle la composition? Règle générale, elle croyait que les enfants habitués à utiliser des livres écriront facilement et librement dans un bon anglais vivant avant d'avoir 10 ans. Du moins, ils le feront s'ils n'ont pas été entravés par des instructions.
Elle ne croyait donc pas que ce sujet devrait se trouver à l'horaire en tant que sujet à l'étude. Notre travail, nous dit-elle, consiste à fournir aux enfants du matériel par le biais de leurs autres leçons et à les laisser gérer ce matériel eux-mêmes. Ils doivent d'abord narrer et ensuite, tôt ou tard, ils composeront, mais il ne faut pas leur enseigner la composition.
Elle ne voulait pas non plus ralentir les élèves avec la difficulté ajoutée qu'est l'écriture. Les enfants peuvent très bien organiser leurs pensées et composer, mais ne savent pas nécessairement comment maîtriser la préhension du crayon et la formation des lettres. La grammaire est également problématique parce que Charlotte Mason voulait éviter le plus possible que les enfants voient des mots mal orthographiés ou accordés pour éviter qu'ils forment une mauvaise image mentale du mot qui serait difficile à effacer, comme on l'a expliqué dans l'épisode précédent.
Nous verrons donc dans cet épisode comment ne pas enseigner la composition et comment enseigner la grammaire dans les différentes formes.
Alors voici comment la composition est enseignée pour les formes 1 et 2. Ce qui suit est pris textuellement du volume 6. Puis ce qui était difficile à mettre, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le temps de Mason, entre autres la Première Guerre mondiale. Donc, lorsque nous donnons des exemples de questions d'examen, on a tenté du mieux possible de les actualiser parce que de parler des techniques de combat de deux généraux, ça pouvait bien se prêter dans le temps parce que c'était dans l'actualité, mais ça serait très difficile aujourd'hui.
Mm-hmm. Donc, le texte vient directement du volume 6, mais les exemples de questions de narration ont été mis à jour.
Le plus possible. Mais clairement, on va voir son influence. Donc, les trois premières années d'école, c'est-à-dire en forme 1, la composition est presque entièrement orale et est si intimement liée à l'histoire, à la géographie et à la science qu'elle ne fait même pas partie des sujets à l'horaire. Les enseignants consacrent beaucoup d'efforts à mettre en œuvre des programmes méthodiques et soignés pour enseigner la composition. Ils créent beaucoup d'exercices pour apprendre aux jeunes enfants comment former une phrase, mais leur travail est inutile, voire même dommageable. Cette façon de faire est aussi logique que de soumettre un enfant à un programme d'exercice détaillé lui expliquant les étapes à suivre pour mâcher des aliments ou extraire des nutriments du pain.
Leurs efforts partent d'une bonne intention. Ils veulent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les enfants. La composition est l'une des choses que les enseignants essaient tant bien que mal d'enseigner alors que les enfants ont naturellement les capacités. Pour eux, la composition, c'est exprimer ses pensées ou encore l'art de raconter. Un art que de grands écrivains comme Sir Walter Scott ou Homère illustrent bien.
Le développement de cet art commence vers 2-3 ans. Les bambins babillent constamment et ont beaucoup à dire, même si les adultes, y compris leur propre mère, ne peuvent souvent pas les comprendre. Mais vers l'âge de 6 ans, ils sont capables de s'exprimer aisément. La mère qui tente d'écrire leur récit de Hansel et Gretel ou de la petite fille aux allumettes, ou toute autre histoire remplira de nombreuses pages avant la fin de l'histoire. Et les détails de l'histoire seront précis, avec une expression étonnamment vive, convaincante et confiante. Il n'y a pas beaucoup d'adultes qui pourraient raconter l'une des fables d'Ésope avec la clarté dont les enfants sont capables.
Les narrations des enfants ne sont pas plus décousues. Ils font leur narration dans le même ordre que leur leçon, continuant à narrer chaque chapitre, semaine après semaine, à partir du même point où ils ont laissé leur narration la fois précédente, et ce, quel que soit le livre lu. Qu'il s'agisse des paraboles de la nature de Madame Getty, des contes de fées de Grimm ou d'Anderson, ou du voyage du pèlerin. Leur connaissance n'est jamais superficielle. Ils connaissent les réponses à des questions telles que « Que s'est-il passé lors de la réunion d'Ulysse et de Télémaque ?» ou « Qu'est-il arrivé à la réunion de Jason et d'Hera ?» ou « Parler de la rencontre entre Christian et son ami Espoir et le géant des espoirs. »
Pour la forme 1A,
on est toujours dans la citation du volume 6.
Oh, toujours tout le long. Les enfants âgés de 7 à 9 ans lisent des choses plus variées et ont plus de composition. On parle ici de composition orale, de narration orale. Dans leurs examens, qui sont pour la plupart oraux, sauf dans la deuxième année de la forme 1A, ils vont parler de choses aussi détaillées que, par exemple, Jésus nourrissant les 4000, de la destruction du château de Doute, qui est un passage du livre du Voyage du pèlerin, de la destruction de la cathédrale Saint-Paul, de la raison pour laquelle nous savons que la terre est ronde, et ce, parmi autres choses. Toutes les lectures qu'ils font se prêtent bien à la narration, et la capacité de raconter une histoire de la sorte est une chose avec laquelle ils sont nés, et non quelque chose qu'ils ont appris à l'école.
Il y a plusieurs choses à garder à l'esprit. Les enfants de la forme 1B, donc la première année, ont besoin de beaucoup de matériel lu à voix haute, avec un degré de difficulté qui augmente progressivement. Ils n'ont pas besoin de développer leur faculté à partir de zéro, car ils sont nés avec les capacités dont ils ont besoin. Mais ils ont besoin d'un peu de temps pour apprendre à utiliser leur pouvoir de concentration et de narration. C'est pour cette raison que les jeunes enfants devraient probablement être autorisés à ne raconter qu'un paragraphe à la fois. À 7 ou 8 ans, ils seront capables de raconter tout un chapitre à la fois.
Nous vous rappelons que les corrections ne doivent pas être faites pendant la narration et que les narrations ne doivent pas être interrompues. Vous pouvez toujours écouter l'épisode sur la narration que nous avons fait précédemment pour vous aider dans votre compréhension de ce qu'est la narration.
Nous ne devrions pas mettre de pression sur nos enfants pour qu'ils utilisent dès le début la ponctuation appropriée et des lettres majuscules lorsqu'ils écrivent leur récit. Ces choses s'amélioreront d'elles-mêmes si l'enfant lit beaucoup. Une trop grande insistance à utiliser une ponctuation correcte entraîne généralement une surutilisation de virgules.
C'est d'ailleurs mon problème, personnellement. Je me souviens de mon enseignante. Panique, trop de virgules. Et bon. Bien qu'il ne soit pas interdit aux enfants de lire des livres de second ordre bien intentionnés, ces livres ne devraient jamais être utilisés pour des leçons. On en a déjà parlé par le passé. Mm-hmm. Dès le début, les enfants devraient prendre l'habitude de lire de la bonne littérature et d'en absorber ce qu'ils veulent, à leur manière, que ce soit beaucoup ou un peu. Comme chaque écrivain a pour but de s'expliquer dans son propre livre, l'enfant et l'auteur doivent pouvoir se faire confiance seul à seul, sans intermédiaire pour dire à l'enfant ce que le livre dit ou ce qu'il faut en penser. Tout ce que l'auteur a choisi de ne pas dire doit être laissé de côté pour le moment. Les explications n'aideront pas vraiment l'enfant. Définir des mots et des phrases gâcherait l'histoire et ne devrait pas être fait à moins que l'enfant ne demande « qu'est-ce que ça signifie?
» En forme 2, les élèves ont une lecture plus variée. Plus de nouvelles idées auxquelles réfléchir et beaucoup plus de sujets de composition. Ils peuvent rédiger eux-mêmes de courtes dissertations ou de courts textes avec une connaissance précise et une expression claire qui étonne et émerveille. Ils peuvent décrire leur scène préférée de « The Tempest » ou « The Woodstock ». Ils peuvent écrire ou raconter des histoires basées sur Plutarque ou Shakespeare ou d'événements actuels. Ils narrent leurs livres lus en histoire, la Bible, de la poésie, comme celle d'Oliver Goldsmith ou de Wordsworth, ou encore des récits comme celui des héros d'Asgard.
En fait, la composition n'est pas un sujet séparé en plus de tout le reste. Elle fait partie intégrante de toutes les leçons. Narrer quelque chose que les enfants apprécient. Nous aimons tous raconter ce que nous savons. Leurs narrations sont candides dans le sens où elles sont totalement sincères. En fait, plus leurs narrations sont candides, plus les résultats sont artistiques. Tout enfant peut créer son propre style, enviable pour sa vivacité. Mais je le répète, il ne doit y avoir aucun effort pour enseigner la composition. Notre erreur en tant qu'enseignant est de sous-estimer les capacités intellectuelles de nos étudiants. Comme les enfants sont si humbles, ils vont s'asseoir et laisser leur enseignant faire pour eux ce qu'ils pensent ne pas pouvoir faire par eux-mêmes. Mais si vous leur en donnez l'occasion et ne leur accordez aucune faveur, ils n'auront aucun problème à décrire leur scène préférée d'une pièce qu'ils ont lue ou quoi que ce soit d'autre.
En forme 3 et 4, la composition est toujours principalement les narrations naturelles d'une utilisation libre de livres soigneusement planifiés et ne nécessite toujours pas d'attention particulière jusqu'à ce que l'étudiant soit assez vieux pour s'intéresser à l'analyse et à l'utilisation des mots. Les enfants apprécient la cadence de la poésie autant que les adultes et beaucoup peuvent écrire de la poésie aussi facilement que de la prose. L'exercice consistant à rendre leur narration assez concise et assez pleine de sens pour qu'elle soit en vers est un grand défi mental, mais gardez à l'esprit que, bien que le rythme et l'accent puissent être appris en lisant simplement de la poésie, il est nécessaire d'apprendre les différents maîtres si l'on veut écrire de la poésie.
À cet âge, les lectures à l'horaire, les événements actuels et le passage des saisons fournissent de nombreux sujets pour de courts textes ou même pour des poèmes qui peuvent être plus sur la forme plus abstraite. N'oubliez pas que quel que soit le sujet de la composition de l'enfant, ce sujet devrait être quelque chose qui a réchauffé son imagination, comme l'a dit Jane Austen.
On ne devrait leur demander d'écrire que sur des sujets qui les intéressent vivement. Ensuite, pendant les examens de fin de trimestre, ils peuvent répondre à des questions telles que « Écris 12 lignes sur Sir Henry Lee » ou « Cordelia » ou « Périclès » ou « Livingston » ou peut-être une question sur les débuts de la Première Guerre mondiale. Les élèves de forme 4 pourraient écrire un texte sur le développement des forces armées en tant que de guerre, des défis rencontrés et de leurs exploits.
On peut enseigner la composition aux élèves des formes 4 et 5, mais cet enseignement devrait être très sommaire. Trop de théorie pour encourager un style artificiel prétentieux qui pourrait les encombrer pour le reste de leur vie. Peut-être que les méthodes utilisées par les professeurs d'université sont les meilleures. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un ou deux points d'une composition et discutent des corrections à apporter ou suggèrent des changements. Étant donné que les étudiants de ces formes ont déjà lu une si grande sélection d'auteurs chevronnés, ils auront appris un peu de leur style par la bande et puisqu'ils ont été exposés à une grande variété de grands esprits en lisant leurs livres, ils seront moins tentés de copier le style d'un seul auteur. Au lieu de cela, ils seront plus susceptibles de trouver leur propre style parmi la richesse des voix qu'ils ont lues. Et comme ils auront tiré toutes sortes d'idées intéressantes de leurs leçons, ils auront des choses importantes à écrire et ne seront pas inutilement verbeux sans avoir quelque chose à dire.
Voici un exemple de travail de fin de trimestre pour la forme 5 ou la fin du secondaire. Un résumé concis d'un livre, une lettre à l'éditeur concernant un événement actuel, un sujet tiré de la lecture du trimestre, des notes d'une étude d'une œuvre d'art, des dialogues entre les personnages d'un livre à l'étude pendant le trimestre. Des balades poétiques à propos d'événements dans l'actualité. Les travaux demandés en forme 6 peuvent également inclure des dissertations sur les événements et des problèmes d'actualité, ainsi qu'une pièce de théâtre patriotique. Voici quelques travaux d'un autre trimestre. Une chanson de louange, en vers rimé ou non, sur la tournée des régions occupées par le prince de Galles dans le Royaume-Uni. Un essai situé 10 ans dans le futur sur les réalisations de la Ligue des Nations. Les élèves en forme 5 pourraient écrire une ballade poétique triste sur les conditions en Irlande, un poème sur la Garden Party du roi avec ses vice-chanceliers, une dissertation sur la situation actuelle de l'Angleterre ou le président américain Wilson. Bien évidemment, ces suggestions datent du début du siècle et doivent être actualisés.
Mais avoue que le contenu et le niveau de difficulté est quand même très, très exigeant.
Oui, mais n'oublions pas que les enfants vont avoir lu des livres à ces sujets-là, vont avoir eu des discussions, lu des journaux, fait des narrations orales et écrites, fait même des dictées par rapport à ces sujets-là. Donc, c'est des sujets avec lesquels ils vont être familiers. Ça semble époustouflant de voir ça comme ça, mais ça l'est un peu moins quand on sait qu'ils ont été en relation avec ces idées-là depuis 3 mois.
Bien, en fait aussi, c'est la variété de style.
Ça remplit amplement la compétence d'écrire des textes variés.
Oui. La réponse des élèves à ces travaux est très encourageante et amusante à lire. Leur travail a une valeur littéraire, voire poétique, mais le fait d'être capable de bien écrire n'est pas leur plus grande réalisation, selon Mason. Plus important encore, ils peuvent lire en appréciant chaque nuance de la pensée de l'auteur. Ils peuvent analyser l'actualité et les préoccupations politiques avec des esprits instruits. En d'autres termes, leur éducation les équipe pour les problèmes et les intérêts du monde réel dans lequel ils vivent. Ils font de réels progrès pour devenir des citoyens à l'esprit ouvert et de futurs dirigeants.
Donc, Charlotte nous met vraiment en garde de donner des cours magistraux sur la composition. Elle croit que de lire une variété de textes, de faire des narrations écrites pendant si longtemps, va naturellement produire des bons écrivains qui ne seront pas nécessairement cartonnés dans une boîte avec un format précis, une introduction, un élément déclencheur, trois péripéties, une conclusion qui doivent être faites dans tel style, de telle façon, combien de phrases dans chacun de ces paragraphes-là. Elle croyait qu'on était en train d'empêcher les enfants de se développer comme écrivains en faisant ce genre d'enseignement-là. Elle dit qu'il ne faut pas enseigner beaucoup même à la fin du secondaire, mais elle dit quand même qu'il faut le faire, qu'on doit guider nos enfants. Donc, comment tu penses qu'on pourrait guider un enfant de secondaire 3, 4, 5 pour lui apprendre, dans le fond, le format des différents types de textes?
Bien, je pense qu'il y a deux choses. Est-ce qu'on le prépare pour son futur? Déjà à la fin de secondaire, probablement qu'il y a déjà un avenir en tête. Est-ce qu'il veut être auteur ou il veut être vétérinaire? Mais où est-ce qu'on veut le préparer pour ses examens?
Mm-hmm. C'est sûr que c'est une réalité avec laquelle on doit vivre aussi. Donc, si on sait que notre enfant va avoir à passer un examen particulier pour la fin de son secondaire, si on sait que ça va être un texte d'opinion, par exemple, on peut le coacher pendant, mettons, les deux dernières années de ses études vers les textes d'opinion. Donc, les questions qu'on va poser dans ses narrations vont être un petit peu plus précises par rapport « Donne-moi ton opinion sur tel sujet dans l'actualité. » Puis on pourra lui donner quelques suggestions. Bien, si tu me le faisais en m'expliquant un argument par paragraphe, essaie de diviser ton texte de cette façon-là. Essaie d'introduire tes paragraphes de telle façon. Donc, ça va être du coaching informel et non un programme complet et développé de composition.
On les avise, on leur dit « C'est ce qui va être exigé de toi, mais... » Le fabuleux écrivain en toi ne sera pas confiné à ce cadre pour le reste de ta vie.
On peut quand même enseigner à nos enfants de façon vivante sans leur mettre des cloisons autour d'eux pour les obliger à être des petits robots écrivains.
Mm-hmm. On recherche toujours l'excellence, pas la norme. Et je pense qu'en offrant un festin varié comme ça, c'est ce qui est atteint naturellement. Et Mason met à l'horaire des livres aussi qui représentent, qui montrent en exemple ce type de texte. Oui. Donc, dans un texte d'opinion. Mais par exemple, un article de journal ou quelque chose de très, très bien écrit comme une dissertation publiée, on pourrait dire, est-ce que tu remarques la transition entre les paragraphes? Mm-hmm. Que c'est une idée nouvelle? Parce que ça fait partie de la méthode Mason de toujours aller voir aussi ce qui se fait avant de tenter de le reproduire.
Oui, puis tu soulignes un bon point parce que dans les programmes, à la forme, si je ne me trompe pas, à partir de 4, 5, 6, elle conseille d'avoir un handbook pour les enfants, un handbook d'écriture. Donc, ça va être probablement un livre de référence qui aide l'enfant à pouvoir bâtir ses textes comme il faut, dépendamment de quel contexte. Dans quel contexte son texte va être utilisé ou publié. Mm-hmm. Une autre façon de faire, ça pourrait être de conseiller à nos enfants de lire des livres d'écrivains qui donnent des trucs, leurs trucs et astuces, comment eux arrivent à écrire, soit si on voit que nos enfants aiment beaucoup les textes informatifs ou si nos enfants aiment beaucoup les histoires, les romans. Mais il y a des livres, il y a des auteurs qui écrivent comme un mentor le ferait à des jeunes écrivains. Je l'ai vu en journalisme, je l'ai vu en anglais. C'est sûr qu'on aurait plusieurs suggestions à vous faire.
Oui, parce qu'il y a aussi des très bons podcasts qui font ça. Quand tu t'abonnes, tu peux rencontrer les auteurs qui ont écrit tes livres. Tu peux leur poser toutes sortes de questions et ces auteurs-là, avec beaucoup de générosité, expliquent leur processus d'écriture. Il y a les bibliothèques aussi qui ouvrent leurs portes, qui font « Ah, tel écrivain sera avec nous cette semaine. Abonne-toi et pose-lui toutes tes questions. »
Donc ça, c'est une très belle façon vivante d'apprendre de la personne elle-même ces trucs et astuces pour mieux écrire. Donc, je pense que c'est ce que Charlotte voulait dire quand elle disait de rien avoir de trop formel, mais de juste guider nos enfants ici et là. Mm-hmm. Passons maintenant à la portion grammaire.
Oui, Charlotte Mason était une femme d'expérience. Elle était dotée d'une grande sagesse. J'espère que vous le voyez au fil des épisodes. Elle a tellement de belles paroles et elle connaissait les enfants, leur développement, puis sa connaissance venait de son observation directe et non pas d'une théorie écrite sans validation.
Elle était très logique dans la progression de la difficulté demandée des enfants. Premièrement, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, elle commençait par l'apprentissage de la graphie des lettres. Elle demanda aux enfants d'écrire des mots dans leur tête en apprenant la lecture et ce, qu'ils soient capables d'écrire ou non. Elle demandait ensuite aux enfants de copier des mots, ensuite des phrases, Pendant ce temps, leur pensée s'organise et se définit en continuant de narrer oralement leur livre de leçons. Quand vient finalement le temps de tout mettre ça par écrit, elle nous met en garde. La grammaire étant l'étude des mots et non des choses, elle n'est pas du tout attrayante pour l'enfant. Et on ne devrait pas le presser à en faire l'étude.
Nous voilà avertis. La grammaire, abstraite et complexe, n'est pas d'approche facile. Elle nous dit « Il ne sera pas facile pour les enfants de comprendre ce type d'information car c'est très abstrait et nous devons nous rappeler que ce type de connaissance est difficile et n'est pas très convivial. Les esprits des enfants sont habitués à faire face à des problèmes concrets. Ils n'ont aucune difficulté à imaginer des détails concrets lorsqu'ils entendent des bribes d'informations sommaires d'un conte de fées. »
Elle nous dit également « Mais un enfant ne peut pas imaginer et rêver de catégories grammaticales. Toute tentative abrutissante d'auteur adulte pour personnifier de tels concepts abstraits offense le petit enfant qui, malgré son amour du jeu et des absurdités, a un esprit sérieux. »
Et ce genre de livre existe. Mais comment faire donc pour rendre accessible un aspect fondamental de notre apprentissage de la langue? Comment la rendre suffisamment progressive pour ne pas qu'elle soit inutilement compliquée? Miss B.S. Wingate, dans un article publié dans le Parents Review, nous montre comment rendre la grammaire pertinente pour tous les enfants. Donc ici, ce qui suit, c'est comment elle a formulé son article. Donc on a l'introduction, mais ensuite on a un exemple de leçon. On ne vous lira pas tous les exemples, on va quand même vous donner juste la leçon 1, mais vous allez pouvoir l'idée comment ça s'enchaîne. Donc, elle commence. Nous donnons l'idée du grand nombre de mots que nous utilisons en montrant aux enfants un dictionnaire et en les laissant compter les mots sur une page. J'en compterai. Nous pouvons parler de tout ce que nous voulons et si une nouvelle chose est inventée, nous créons un mot nouveau pour la désigner. Nous faisons ressortir l'idée qu'il est impossible d'utiliser des mots sans penser, tout comme il est impossible de communiquer nos pensées aux autres sans utiliser de mots. Si nous cessons de relier des idées, complètes ou incomplètes, aux mots que nous prononçons, on ne peut plus dire que nous parlons. Nous faisons tout simplement du bruit.
Il peut sembler que nous n'avons donné aucune règle précise dans cette leçon d'introduction, mais notre but est de donner à chaque leçon une idée vivifiante. En présentant la grammaire de cette façon, notre but est que les enfants constatent que l'enseignement ou l'étude de la grammaire, bien que parfois déconcertante, à ces derniers stades est à l'origine une entreprise beaucoup moins redoutable qu'on ne le suppose généralement.
Leçon 1. Si tous les mots du dictionnaire étaient écrits sur des morceaux de papier, nous pourrions tous les séparer en 8 piles. Les mots dans ces piles diffèrent en son et en signification, tout comme une tulipe, une marguerite et une rose sont différentes l'une de l'autre, bien qu'elles soient toutes trois des fleurs. Lorsque nous souhaitons dire quelque chose, nous sommes guidés par la pensée que nous souhaitons exprimer par chaque mot. Une phrase est l'ensemble des mots particuliers que nous mettons ensemble pour exprimer notre pensée. Nous créons une phrase en assemblant d'abord des mots qui ne font pas de sens lorsque mis en désordre, comme « rapidement, fleur déchirée, dans trou et atteindre ». J'espère que vous avez rien compris, c'était le but. Ça ne peut pas être une phrase. Puis, nous assemblons des mots qui ont du sens lorsque mis ensemble de façon ordonnée qui forment ainsi une phrase comme « Charlie mange son dîner ».
Nous pouvons maintenant traiter des phrases et des positions que les mots y occupent plutôt que des mots et de ce qu'ils ont comme nature grammaticale. Il est préférable que les enfants commencent par la phrase et non par les parties du discours. Ils devraient apprendre un peu de ce qu'on appelle l'analyse des phrases avant de commencer à analyser chaque mot. Ils devraient également apprendre à diviser de simples phrases en ce que nous parlons, le sujet, et ce que nous en disons. Par exemple, dans cette phrase, « Le chat est assis sur le foyer. » « Le chat est ce dont nous parlons. » Et « est assis sur le foyer. » « Ce que nous en disons. » Ils devraient savoir faire cette analyse simple avant de se perdre dans le brouillard des personnes, des modes de verbes et des catégories grammaticales.
Elle continue en disant « Dans cet article, nous présentons un grand nombre d'exercices variés et intéressants qui montrent si les enfants ont parfaitement saisi l'idée de la leçon. Nous élaborons les différentes règles et définitions grammaticales, non pas dans l'ordre généralement suivi dans les ouvrages de grammaire anglaise, mais dans l'ordre de leur simplicité et de leur attrait pour l'esprit des enfants. Nous réussissons généralement à amener les enfants à donner une définition plus ou moins complète par eux-mêmes. Contrairement à l'ancienne façon de faire qui consistait à donner une définition précise, que les enfants devaient apprendre par cœur avant d'utiliser la règle ou la chose définie dans les exercices placés sous la définition.
Donner le nom de la personne ou de la chose dont nous parlons. C'est ce qu'on appelle le sujet. Le terme « sujet » signifie simplement la chose dont on parle. À la fin de la leçon, trois affirmations doivent être apprises et inscrites au tableau. 1. Les mots mis ensemble pour créer un sens forment une phrase. 2. Chaque phrase a deux parties, ce dont on parle et ce qu'on en dit. Et 3. Ce dont on parle est le sujet. Ensuite, l'enfant va faire quelques exercices, par exemple, mettez les phrases à compléter au tableau. Il va avoir comme une ligne vide et aime les fruits. Donc, on va compléter avec un sujet. Un deuxième exemple d'exercice serait donner le sujet et demander l'heure de compléter la phrase. Le chapeau de papa, et ils doivent compléter. Donc, on va faire ça à quelques reprises avec plusieurs exercices.
Oui, dans le but qu'ils maîtrisent sujet, reste la phrase. C'est très sommaire, mais on parle ici de la leçon 1. C'est une erreur d'essayer d'enseigner par peu d'exemples et beaucoup de règles. Il faudrait au contraire multiplier les exemples et d'en déduire les règles.
Maintenant, Fanny, si on prenait forme par forme, puis on récapitulait ce qu'on vient de dire par rapport à la composition et la grammaire.
Je pense que c'est très nécessaire après deux sujets aussi différents les uns que les autres.
Gardez en tête, par contre, que c'est les recommandations de Mason, qu'on croit qu'ils peuvent être utilisés tels quels, mais la réalité est que beaucoup d'entre nous ont à rendre des comptes à des instances scolaires, donc il faut quand même s'assurer de ce qu'on peut et ne peut pas faire dépendamment de où on se trouve sur la planète.
Et de leurs exigences.
Et de leurs exigences.
Forme 1.
Donc, en forme 1, côté composition, il n'y a que de la narration orale sur divers sujets. En fait, tout ce qui est à l'horaire, littérature, histoire, études de l'art, tout ça va être narré. Donc, c'est la base. C'est vraiment la base de toute la pédagogie Charlotte Mason. Je pense que vous nous avez entendu le dire et le répéter. Il faut vraiment laisser 1 à 2 ans aux élèves afin qu'ils deviennent des narrateurs fluides.
Oui, il nous faut une fondation solide, sinon tout s'écroule. Tout est basé là-dessus.
Côté grammaire, il n'y a rien de formel, ce qui ne veut pas dire que pendant qu'on fait de la copie avec notre enfant, qu'on ne peut pas lui faire remarquer que ça, c'est le nom de l'objet, on parle de la lampe, ou on peut le faire de façon informelle, mais il n'y a rien de formel à l'horaire. En forme 2, la narration écrite est commencée. Vers 10 à 11 ans habituellement, certains enfants peuvent la commencer plus tôt. Vous devez accepter la plupart des narrations écrites sans tenter de les corriger. Ça, c'est difficile des fois. Il leur faudra quelques années pour devenir compétents en narration écrite, autant dans le contenu que dans la forme. Commencez par demander une narration écrite par semaine, puis on peut augmenter progressivement à 2 à 3 selon la capacité de l'enfant. Puis certains enfants aussi vont nous écrire 2 pages à chaque narration écrite, d'autres vont nous écrire 3 lignes. Donc on peut essayer de jongler avec ça pour que nos enfants écrivent toujours de plus en plus, trimestre après trimestre. Une fois par mois, vous pouvez peut-être éditer ou corriger une narration avec lui. En ce qui a trait à la narration orale des divers sujets, ça continue d'être une partie importante de l'aspect composition. On ne le néglige pas parce que l'enfant a commencé à écrire.
Pour ce qui est de la grammaire, bien, en forme 2, elle commence officiellement, célébrer, sortez les ballons. Une fois que l'enfant a commencé à écrire, on parle ici de composition, là, des narrations écrites. Il a davantage besoin de grammaire. Il va ressentir ce besoin-là. Il va se questionner. Vous pouvez choisir d'utiliser un curriculum acheté, mais vous pourriez également vous contenter d'enseigner de manière plus informelle, en limitant l'instruction aux 8 ou 9 catégories grammaticales, aux 4 types de phrases de base, soit la phrase déclarative, interrogative, impérative, exclamative, et à quelques règles simples de ponctuation et d'utilisation de la majuscule.
Ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de pages qui est assigné. Dans un livre de grammaire dans les programmes de Mason, oui. Il y a juste quelques pages à ce niveau-là, 7 ou 8 pages par terme, plus des exercices à faire avec l'enfant. Donc, on pourrait justement, comme tu viens de dire, décider, bon, c'est, là, on va apprendre telle ou telle ou telle chose en grammaire, on le pratique, ça va être acquis, on passe à quelque chose d'autre au prochain terme. Mm-hmm. Pour la forme 3 en composition, on commence à augmenter progressivement le nombre, la longueur des narrations écrites. On devrait également aider notre enfant à perfectionner les mécanismes de la rédaction. On parle ici d'orthographe, de ponctuation et de grammaire, comme tu vas nous en donner les détails, et l'aider à apprendre à éditer son travail et à corriger ses erreurs, à se relire, à se poser la question « Est-ce que j'aimerais lire ce texte? Qu'est-ce que j'y changerais? » C'est bien de le faire avec une seule narration par semaine, et cette façon de faire renforcera la grammaire et la ponctuation étudiées séparément, et ça reste en contexte parce que c'est son texte, sa narration. Encore une fois, on ne laisse pas tomber les narrations orales, elles sont encore aussi importantes.
En forme 3, ce qui change pour la grammaire, c'est que ça devient plus une instruction formelle, et de préférence avec un livre qui couvre toute la matière. Une fois le cours terminé, un manuel de grammaire pourrait être utile comme outil de référence pour peaufiner, corriger les défauts de grammaire qui apparaissent dans les travaux écrits.
En forme 4 et plus, comme on vous le disait, les narrations peuvent devenir vraiment beaucoup plus ciblées. Et l'enfant peut être, qui n'est plus nécessairement un enfant à cet âge-là, le jeune adulte, peut être initié à différents types d'écriture formelle. Puis ça peut être fait simplement en posant différents types de questions pour les narrations, pour leur permettre de structurer leur narration de différentes façons. Puis une autre suggestion, comme on l'a dit, ça serait de lire des livres avec eux, traitant du sujet de l'écriture et du style tel que le livre « Elements of Style » de Strunk and White ou « On Writing Well » de William Zinsser, puis d'appliquer le contenu aux narrations des enfants. Donc, on lit un chapitre du livre, puis on incite l'enfant à appliquer ce qu'il a lu dans ce livre-là dans sa prochaine narration. Mais reste que ça, c'est pas quelque chose que Mason conseillait directement, mais c'est ce qui, selon nous, puis selon d'autres références qu'on a vues, peuvent être une très bonne façon d'aider nos enfants à gagner du style. Puis ça reste, comme on l'a dit plus tôt dans l'émission, une façon vivante d'être en contact avec des auteurs qui peuvent nous donner leurs suggestions.
Est-ce qu'il y a encore de la narration orale à cet âge-là? Quand on est quand même à 14, 15 ans, ça se peut qu'ils trouvent ça un petit peu redondant?
Bien, en fait, avec la quantité de livres que les enfants lisent, je ne suis pas sûre qu'on pourrait leur demander une narration écrite de tout ce qu'ils lisent. Et ça reste encore important à 14 et à 15 ans d'apprendre à s'exprimer à l'oral. C'est quelque chose qui est toujours important. Une autre façon de varier un peu, c'est de demander à l'élève de faire une narration orale de manière formelle, telle que de faire un discours ou une présentation. Idéalement, quand c'est dans un contexte qui n'est pas construit, si l'enfant a l'occasion de présenter quelque chose devant des personnes, puis que c'est un contexte qui n'est pas recréé, là, c'est pas comme dans une classe où on fait un oral devant tout le monde.
Okay, mais plus qu'un expo que là, il va présenter aux gens qui viennent le voir comment il a pu penser à son processus.
Exactement, ou de présenter un voyage devant un groupe ou ce type de choses-là. Donc, ça aide à ajouter la petite touche de stress qui, des fois, nous aide à vraiment faire de notre mieux.
Pour ce qui est de la grammaire, si vous n'avez pas suivi un programme de grammaire formel à cette étape-ci, donc en forme 3, si vous ne l'avez pas fait, faites-le en forme 4. Sinon, utilisez le programme déjà utilisé et complété en forme 3 ou un manuel de grammaire pour traiter les problèmes de grammaire que vous remarquez dans les travaux écrits de vos enfants. Si vous le souhaitez, vous pouvez brièvement passer en revue la grammaire formelle avant la passation d'examen de vos enfants avant leur graduation. Mais la plupart des cours de grammaire, et il devrait y en avoir dans votre planification scolaire, devraient se dérouler dans le contexte des travaux écrits des enfants.
Pour toutes les formes, le grand avantage de faire l'école maison, c'est qu'on est en contact direct avec eux toujours. On lit leurs textes, on voit les erreurs qu'ils font et on peut vraiment modeler nos instructions de grammaire et de composition pour aider l'enfant dans les erreurs ou les patterns qu'il a, qu'on doit défaire, et non juste tout enseigner pour tout enseigner. Donc, on a cet avantage-là.
Mais je pense que ça sauve aussi du temps parce qu'on ne montrera pas un problème si l'enfant n'a pas ce problème-là. On va s'attaquer à ce que lui a comme problématique.
On Effectivement.
Temps, puis on le garde motivé.
Charlotte croyait fermement en sa façon d'enseigner la langue. L'intégrer à l'ensemble du programme lui permettait non seulement d'utiliser la narration comme outil d'apprentissage dans toutes les matières, mais aussi de garder la composition et la grammaire en contexte. C'est une situation gagnant-gagnant pour tous. Les élèves prennent plaisir à l'exercice parce que la progression est lente, logique et adaptée à leur rythme, et aussi parce qu'ils écrivent sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Ils apprennent des meilleurs professeurs en étant exposés aux plus belles plumes dans tous les domaines, Ils apprennent tous les faits qu'ils doivent savoir en histoire, sciences, géographie, etc., mais en contexte. Ils s'habituent à ordonner et à coucher leurs pensées sur papier, et par la même occasion, ils pratiquent le côté mécanique de la chose. Mais ce qui est encore plus beau dans cette histoire, c'est que tout ceci permet de sauver beaucoup de temps. Mason prétend que les familles et les écoles qui utilisaient ces programmes parvenaient à faire beaucoup plus que les autres écoles de son temps, en 8 heures de moins par semaine. Ces 8 heures pouvaient être utilisées à enrichir autrement l'éducation des enfants. Nous espérons vous avoir donné une bonne idée de l'enseignement du français à la Mason. Nous espérons aussi que vous aurez gagné de la confiance en votre capacité d'accompagner vos enfants dans cette partie des apprentissages qui nous fait souvent peur. Nous sommes toujours heureuses de recevoir vos commentaires et vos questions. On se retrouve lors du prochain épisode d'Un festin d'idées.